Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Ça y est, nous avons enfin un nom, le nom de la personne qui est en charge de former le prochain gouvernement de la Tunisie. Et surprise, et bonne surprise, c'est une femme qui s'appelle Najla Boudane. Elle vient donc d'être nommée par le président tunisien Kais Saied pour former cette équipe gouvernementale qui va intervenir dans un contexte politique quelque peu remué depuis ces décisions qui ont été prises cet été, à savoir une série de mesures exceptionnelles qui visent à une présidentialité du régime syrien. Comment cette femme va opérer ses choix? De quelle nature sera l'équipe gouvernementale qui sera retenue? Est-ce qu'il y aura plus de femmes dans cette équipe gouvernementale? C'est ce que nous saurons dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est là un élément qui était très attendu par les acteurs de l'offre politique tunisienne qui cherchaient à se positionner par rapport à ce choix du président Kais Saied qui, il faut bien le dire, nous a surpris par ce choix. C'est une femme de 58 ans qui a une formation scientifique, une inconnue, entre guillemets, du champ politique tunisien habituel. Et c'est donc de cette surprise, peut-être une bonne surprise, que naîtra la prochaine équipe gouvernementale tunisienne. C'est un véritable coup de froid qui a été opéré par la France à l'adresse du Maghreb. Paris a décidé de restreindre à la baisse le nombre de visas accordés pour des ressortissants qui sont soit en provenance de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Ceci au motif que Paris ne peut pas mener, en tout cas tel est l'argument qui est avancé, ne peut pas mener comme elle souhaiterait le mener sa politique de retour des migrants clandestins qui réussissent à pénétrer sur le territoire national français. Et lorsque ceux-ci doivent rentrer à la maison, il y aurait, dit Paris, il y aurait des freins, ce que bien évidemment dénonce aujourd'hui l'ensemble des pays du Maghreb. La commission électorale libyenne vient de faire cette déclaration qui ne va pas aider au débat politique tel qu'il existe à ce jour. Il a été dit qu'il ne pouvait pas y avoir de militaires qui se présenteraient à l'élection présidentielle qui est prévue le 24 décembre prochain. Alors attention malgré tout à cette déclaration parce que celle-ci relève de la prise de parole, certes en public, mais ce n'est pas écrit. Et aujourd'hui, la loi électorale libyenne n'a toujours pas été fixée, elle n'a toujours pas été gravée dans le marbre, pourrions-nous dire, puisque le Parlement de Tobrouk continue de discuter, d'amender, de réfléchir sur ce texte. Il y a aujourd'hui beaucoup d'impatience du côté de Tripoli. En tout cas, on sait que c'est un élément d'information important que d'avoir eu cette déclaration, puisque Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a d'ores et déjà annoncé qu'il comptait concourir à cette élection présidentielle. Alors qu'en sera-t-il si la commission qui est en charge d'organiser cette élection dit non, il ne peut pas y avoir de militaires? Et si Khalifa Haftar se présente, que va-t-il se passer? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Prudence, beaucoup de prudence, puisqu'il y a cet échauffement sur les réseaux sociaux après ces événements qui se seraient déroulés. Nous parlons au conditionnel, bien évidemment, dans la ville mauritanienne de Rkiz. Nous sommes à 200 km au sud de Nouakchott. C'est là où plusieurs personnes auraient été arrêtées suite à des manifestations, des rassemblements pour manifester contre des problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité. Il y aurait eu donc des arrestations, peut-être depuis des libérations. Certaines personnes auraient été déférées devant le tribunal de Rosso. Donc il y a beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux concernant ces événements de Rkiz qui pour l'instant reste à bien des égards encore mystérieux et qui réclame des recoupements nécessaires pour pouvoir reconstituer le fil des événements. Au Proche-Orient, le conseiller de la sécurité nationale du président américain, il s'appelle Jack Sullivan, se rend aujourd'hui au Caire. Il doit s'entretenir avec les autorités égyptiennes au sujet de la montée de tensions entre Israël et le Hamas. C'est vrai que le climat s'est considérablement dégradé. Le Hamas et aussi les factions palestiniennes, sachant qu'il y a aussi des désaccords sur la scène gazaoui entre à la fois le Hamas, qui représente l'autorité légale, va-t-on dire, et puis les factions palestiniennes, le djihad islamique, mais également d'autres qui contestent le Hamas. Tout ceci fait qu'il y a un climat de difficulté, un climat de tension. Il y a toujours cette crainte des Américains, mais aussi d'Israël, qu'il y ait des envois de ballons incendiaires. Il y a toujours cette crainte des populations à Gaza, qu'il y ait des tirs des forces armées israéliennes. Donc voilà, le conseiller de la sécurité nationale du président Biden va sur zone, il va dans la région pour essayer de calmer les esprits et de voir ce qui pourrait être entrepris avec les Égyptiens d'un point de vue diplomatique pour essayer de faire baisser la tension. D'abord des rumeurs et puis des confirmations. En Afghanistan, les talibans ont bien ordonné à 800 familles chiites, ce sont des Hazaras, ils ont dû quitter leur maison. Il n'y a pas de précision du côté des autorités talibes qui pourtant, on se souvient, avaient beaucoup communiqué le 15 août et le 16 et le 17 lorsque ceux-ci ont pris le contrôle de Kaboul. Ils voulaient rassurer tout le monde, mais maintenant que nous sommes rentrés dans la routine des jours, les réflexes talibes reprennent. On se souvient que d'ailleurs quand ils étaient au pouvoir avant 2001, les relations avec les chiites afghans étaient déjà extrêmement compliqué, ce qui provoquait l'irritation des autorités iraniennes. En tout cas, l'information est confirmée. 800 familles Hazara ont été chassées de chez elles par les talibans. Guerre civile en Syrie. Nous allons au Proche-Orient, une fois de plus, pour cette escale du jour, avec la Jordanie qui a décidé de rouvrir aujourd'hui même son principal poste frontalier avec la Syrie. C'était un projet ancien des autorités d'Amman, mais qui voulait ainsi procéder au dynamisme économique, renouer aux échanges entre les deux pays. Alors à la fois, il y a le côté commerce, c'est vrai aussi que le fait que les deux pays travaillent ensemble, cela peut permettre notamment aux services de sécurité jordaniens de lutter contre le trafic de drogue qui vient en provenance de Syrie, et ça les autorités jordaniennes s'en sont plaintes à de très nombreuses reprises. Et puis il y a eu cet accord Jordanie, Liban, Syrie, Égypte qui a été accepté par les États-Unis, qui a été conclu ce mois-ci et qui vise à envoyer du gaz naturel égyptien au Liban, et ceci en passant par la Syrie à l'aide d'un gazoduc. C'est la première fois que les Américains ont accepté un tel accord, mais compte tenu de la situation absolument catastrophique d'un point de vue énergétique du Liban, il fallait absolument y remédier. Cette réouverture de ce poste frontière, du poste Jaber, pour dire son nom, se déroule alors que nous avons un sommet tout à fait important aujourd'hui à Sotchi. Ce sont les présidents russes et turcs qui se retrouvent, Vladimir Poutine, Erdogan également, qui vont se pencher à la fois sur les relations générales entre la Turquie et la Russie. Ce sont des relations qui ont pu être compliquées dans le passé, mais aujourd'hui, il y a vraisemblablement une volonté de travailler ensemble, mais avec de véritables points de divergence qui notamment s'expriment sur cette province syrienne de Idlib, où l'on sait que la Turquie est très proche du mouvement HTS, Hayatar al-Asham, mais les Russes ne l'entendent pas ainsi. Ils voudraient que ce mouvement rebelle, ce mouvement qui est salafiste combattant, ils voudraient que celui-ci arrête de sévir sur la province d'Idlib. Donc on a de vrais points de divergence qui sont clairs, qui sont nets. Aujourd'hui, les Russes sont les alliés de Damas. Damas veut absolument récupérer le contrôle de l'autoroute M4 qui va du sud vers le nord et du nord vers le sud du pays pour redynamiser l'économie. Est-ce que les Turcs seraient d'accord pour que les autorités de Damas reprennent le contrôle de l'autoroute M4 ? Rien n'est moins sûr. C'est donc tout l'intérêt des débats, des discussions qui se déroulent aujourd'hui entre les présidents russes et turcs pour essayer de trouver au moins une situation de convergence sur quelques points essentiels. 1. Le cessez-le-feu. On est dans une zone de désescalade et il y a quasiment la guerre tous les jours. Des bombardements, des affrontements à la mitrailleuse et des réfugiés qui quittent leur maison parce que la situation sécuritaire devient absolument infernale. Et puis, deuxième point, travailler ensemble à une sortie de conflit. Les Nations Unies ont annoncé que la réunion du comité constitutionnel qui réfléchit à la future constitution de la Syrie se réunira au mois d'octobre prochain. Et Et c'est vrai que cette constitution syrienne, cette nouvelle constitution, il serait profitable pour tout le monde que, à la fois les Russes, à la fois les Turcs et aussi les autorités d'Hamas et aussi l'opposition soient d'accord sur le texte. Donc c'est aussi de cela dont on parlera à l'occasion de ce sommet de Sotchi. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.